parce que c'est un sujet extrêmement vaste. Je le prendrai par les principes au plan théologique. Et comme c'est un sujet pratique, vous comprenez que en fonction des différents milieux, ça se présente diversement. Bon, il s'agit de la direction spirituelle. Direction spirituelle que certains d'entre vous seront appelés d'exercer, qui l'ont peut-être déjà exercé. Et puis une direction spirituelle par rapport à nous-mêmes. On est toujours novice du Saint-Esprit. Et plus on a de responsabilités, plus on doit être novice du Saint-Esprit. Donc la direction spirituelle, on la prend dans la mesure où nous-mêmes, on l'a vécu. Je crois. Alors, distinguons tout de suite le fort interne, le fort externe et le fort intermédiaire. Selon le droit canon, on fait fort interne et fort externe. Selon la théologie, on fait les trois. C'est normal. La théologie précise des points que le droit canon ne précise pas. Il n'a pas besoin de préciser. Le fort externe, bien connu. Dans une communauté, qu'est-ce que c'est que le fort externe? C'est par exemple arriver en retard au cours. Hein, c'est du fort externe. Je prends un exemple concret. Ça vous... formait la sainteté par la voie la plus rapide, la voie express. qu'on veut aller plus vite. Le fraterne, c'est de fait, au sens tout à fait précis, l'action de l'Esprit Saint sur nous. C'est notre vie théologale et l'exercice des dons du Saint-Esprit sur nous. Donc le fort interne peut tout regarder. J'ai manqué le cours. Il y a sûrement manqué le cours, quelque chose du fort interne. Je l'ai manqué parce que je l'ai oublié. Bon, alors là, il n'y a rien de pécamineux. J'ai oublié. J'aurais dû. Ça fait accusation de fort externe au point de vue du fort interne. Bon, sûrement pas de faute. J'étais de mauvaise humeur parce qu'on venait de me faire une observation. Alors je me suis vengé comme ça. Je dis pas je me suis vengé, mais au fond c'est ça. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me dis ça, je suis de mauvaise humeur, bon, je réponds. On a une tête dure. Il y a donc là une petite faute. C'est évident. Ça regarde le fort interne. Le fort interne regarde les fautes. Le fort interne, c'est le sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence, c'est le fort interne. Au sens très très précis. On s'accuse de ses fautes. Alors que personne n'a à savoir les secrets des cœurs. Dieu seul sondera les cœurs. Et c'est la direction spirituelle pour les orientations profondes de l'Esprit Saint sur nous. Et je distingue, la confession n'est pas nécessairement une direction spirituelle. Heureusement, parce qu'on peut se confesser à droite ou à gauche, il vaut mieux à droite qu'à gauche. Mais on peut se confesser selon diverses manières, ce que j'avais dit. Le souci de Monseigneur Hardy de dire, bien, vous aurez un confesseur qui sera normalement un père de Saint-Jean. Mais comme il ne peut venir que tous les 15 jours, revenir tous les jours, ce serait trop onéreux pour lui. Entre deux, mais vous aurez tel père, tel prêtre. Ce qui se fait habituellement pour les religieux. Très souvent. Il y a des confesseurs comme ça, qu'on n'a pas choisi, qu'on vous impose. Ça, c'est une des pauvretés des religieuses. Parce que quand on est dans le monde, on est libre de choisir son confesseur comme on veut. Je vais à Paris tous les 15 jours, je peux me confesser à Paris. Et là, je me confesse à tel ou tel père parce que, bah oui, ça vaut mieux. Je suis plus habitué. Tandis que dans une communauté de vie religieuse, mais on vous impose tel ou tel confesseur. On dira par exemple, les jeunes pères ne confesseront pas les religieux. Où les jeunes pères ne confesseront pas normalement les frères. Je dis normalement, puisqu'il peut y toujours y avoir le permodomactus. C'est-à-dire pour une voix particulière, on peut, mais de façon habituelle, non. Vous voyez, ça fait partie des constitutions, ça fait partie de l'arrangement du reste, en dépendance de l'évêque. Alors, fort interne, la direction spirituelle, l'orientation profonde de notre vie. Alors à ce moment-là, ça regarde notre raison, ça regarde notre soif de contemplation, ça regarde notre manière d'étudier, ça regarde les difficultés qu'on a dans certaines luttes, dans certains domaines. On a de la peine à vivre vraiment de nos voeux. Et de l'esprit de nos voeux. Alors, on doit le dire. Ça fait partie de la direction spirituelle. C'est pas normal qu'on garde ça pour soi, seul. Et qu'on le dise à quelqu'un qu'on a choisi comme père spirituel. Vous voyez, et d'après nos constitutions, on doit choisir comme père spirituel ou un père de la communauté ou quelqu'un pas dans l'esprit de la communauté. Je dirais, ça peut être grave par rapport à notre vocation. Ça fait partie de l'esprit d'une congrégation. Quand l'Église reconnaît l'esprit d'une congrégation, et c'est dit dans les constitutions, et les constitutions sont reconnues par l'Église. Donc, ça pourrait être quelque chose de dangereux pour nous. Et donc, ce serait une présomption qui pourrait être dangereuse, étant donné qu'il s'agit de quelque chose d'important. Il s'agit de l'orientation de notre vie. Quand on doute, on demande conseil. Oui. Parce que ordinairement, on laisse très souple. C'est ce qu'il faut. Il faut laisser d'une très grande souplesse. Il faut une très grande liberté pour le choix du directeur spirituel. Il faut une très grande liberté. C'est toujours très gênant de demander à quelqu'un, avez-vous un père spirituel? C'est très gênant. Alors, c'est chacun d'entre nous qui doit le comprendre, enfin, ce Dieu. Et autant que possible, on le dit au Père spirituel. Ce n'est pas le Père spirituel qui le dit. C'est celui qui est dirigé qui le dit. Ça, c'est tout le temps comme ça. Mais pour la confession, c'est une autre chose. On se confesse, on confesse. Et dans la confession, on s'accuse de ses fautes. Et si le confesseur voit quelqu'un qui vient se confesser régulièrement, s'accuse toujours des mêmes fautes, il pourra peut-être poser certaines questions. Dites pas qu'il est indiscret, c'est vous qui vous confessez régulièrement à lui, en accusant toujours la même faute, c'est normal qu'il pose la question. Ça fait partie de son autorité de confesseur. Mais si vous avez un directeur, et que vous voulez éviter ce genre de questions, n'allez pas toujours vous confesser au même. Tout simplement, soyez suffisamment intelligent pour ça, ou intelligente pour ça, c'est pas pour que vous, on ne vous coince pas. Mais ayez un directeur spirituel. C'est très important dans la vie. Ça, je crois. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'un directeur spirituel. Si on veut avancer au plan plus profond, si on fait l'économie d'un directeur spirituel, pratiquement on ne se dirige plus. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige, c'est bien évident. Director et rector. Pour nous, c'est saint homme qui dit. Donc on ne met pas ça en discussion. Le seul directeur spirituel, c'est l'Esprit Saint. Mais comme nous sommes des êtres qui vivons dans la foi, c'est très difficile de savoir si c'est le Saint-Esprit ou notre imagination. Je me sens porté vers ça. Oui. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est votre imagination? Oh, j'évite ça tout. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou votre imagination? La direction spirituelle sera faite pour dirimer cela. Mais voyez, c'est nous qui devons le dire. Hein, qui devons exposer les petits problèmes qu'on a, les petites difficultés qu'on a. Ou demander, je tombe régulièrement dans telle faute, qu'est-ce que je peux faire? Plus on est instrument de l'Esprit Saint, plus on est discret. Cette définition admirable de l'instrument. Or, dans la direction spirituelle, on est instrument du Saint-Esprit. On n'est pas qu'aux secondes. Or, la définition admirable du Saint-Esprit, de l'instrument, selon Jean de Saint-Thomas, et c'est tout à fait du Saint-Thomas, c'est un Jean. La cause instrumentale regarde en premier lieu la cause principale, avant de regarder les effets. Tandis que quand vous êtes cause, vous regardez les effets en premier lieu, cause principale. Tandis que la cause instrumentale ne fait pas nombre avec la cause principale, et donc regarde avant tout la cause principale dans les mains duquel il se trouve. Et ça, je crois que c'est capital, ça, ne pas confondre. Quand vous aurez à diriger au plan spirituel, rappelez-vous ça. Ça réclame une très grande pauvreté. Je crois qu'il vaut mieux à un directeur spirituel qu'on lui reproche d'avoir, de manquer d'initiative, que d'en avoir trop. Parce que ce n'est pas lui qui doit avoir les initiatives. C'est l'Esprit Saint. Alors, si c'est l'Esprit Saint, vous comprenez bien, le prêtre qui est directeur spirituel doit s'effacer devant le Saint-Esprit. Il est là pour essayer de clarifier ce qu'on lui montre. Et si le Père spirituel apprend indirectement des quantités de choses de la personne qu'il dirige, et que la personne qu'il dirige ne lui en a jamais parlé, il vaut bien souvent mieux qu'il se taise que de dire « j'ai appris hein ». Parce qu'à ce moment-là, on brise la confiance. Il faut la patience. Et un jour, la personne pourra s'ouvrir. De façon générale, ça c'est des principes généraux. Il peut y avoir des cas particuliers tout le temps. Si quelqu'un vous dit, mais mon père, dites-moi, vous devez savoir des tas de choses sur moi, j'arrive pas à penser. Dis, ah oui, je sais des tas de choses, oui. Alors à ce moment-là, si, et puis vous commencez à dire, et voyez immédiatement, la touche écossaise étant tellement forte, il s'écarte, donc il vaut mieux se taire. Là, vous voyez, il vaut mieux se taire. Très souvent, le rôle du prêtre, c'est prier, de porter. Et la discrétion. La discrétion. Pour la confession, comme pour la direction. C'est tellement désagréable. Une direction spirituelle qui s'impose. Et qui impose à l'âme les grâces propres qu'on a. Vous comprenez? C'est pour ça que Saint Thérèse dit qu'il vaut mieux comme directeur spirituel un théologien qu'un saint. Il vaut mieux un saint et un théologien. Il vaut mieux que ça s'additionne, mais il vaut mieux dire un théologien. Parce que le théologien est plus objectif. Le saint qui n'est pas théologien risque de projeter. Et à ce moment-là, il étouffe l'action de l'Esprit Saint. Je sais très bien qu'on pourra dire, c'est trop discret, vous êtes. Mais c'est l'âme qui doit elle-même dire, mon père, sur tel ou tel point, je voudrais que vous m'éclairiez, je ne vois pas très bien. Parce que c'est assez simple, au fond. N'est pas des cas extraordinaires tous les jours. À moins que vous êtes dans une période très romantique, avec des tempêtes effrayantes, et que Jésus, dans le fond de la barque, dort sur le coussin. Alors, à ce moment-là, vous avez peut-être des tas de problèmes. Ça peut arriver, ça. Il y a des périodes comme ça. Puis il y a d'autres périodes où c'est simple. Alors, ne dramatisons pas. Parce que le rôle du directeur spirituel, c'est d'enlever le drame. Le Saint-Esprit ne dramatise pas. Ça. Le Saint-Esprit nous met dans des séchoirs non dramatiques. Le Saint-Esprit nous met dans des feux brûlants non dramatiques. Il est les deux extrêmes. Et ordinairement, c'est la marque du Saint-Esprit quand on est dans l'aridité. Il n'y a pas beaucoup d'imagination. Ou au contraire, dans la volure, même entre deux, beaucoup plus difficile. La conduite du Saint-Esprit, ordinairement, c'est de mettre dans la foi toute pure. Le Saint-Esprit aime ça. C'est pas drôle du tout pour nous. Mais le Saint-Esprit aime de nous mettre dans la foi toute nue. De nous mettre dans la pauvreté de l'espérance. C'est les dons du Saint-Esprit qui agissent. Les dons du Saint-Esprit nous mettent dans ces attitudes-là. Pour leur raison, pour la prière. Mais c'est bon, le directeur spirituel, le sage. C'est bon. On dit ça en 3 minutes. Vous savez, on perd combien c'est dur. Et alors, à ce moment-là, une fois qu'on l'a dit, une fois, on peut demander de temps en temps, mais est-ce que ça continue, le séchoir du Saint-Esprit? Ce qu'on racontait tout à l'heure au réfectoire. Ça fait penser à certains trucs du Saint-Esprit, ça, tout à fait. C'est pas drôle physiquement, mais c'est beaucoup moins drôle spirituellement. Les tempêtes de sable se volant. Pire que les tempêtes de neige, je crois. La tempête de neige n'est pas drôle. La tempête de sable, j'en ai eu une fois en Afrique, c'était pas drôle du tout. Au Sénégal. Non. Dans une petite... s'arrêter. Sortie du Carmel de Semi-Gotan. On a dû s'arrêter. On a attendu là pendant 20 minutes. Heureusement, il y avait les vitres. Ça, les vitres sont restées debout. Mais ça, ça partait. C'était pas aussi fort que ce qu'on a dit. Hein. C'est sûr. Puis ça n'a pas duré très longtemps. Bon. Voilà les deux extrêmes. Ça, je crois qu'on situe assez bien. Entre deux, ce que j'appelle le fort intermédiaire. Les tempêtes de lac. C'est l'imaginaire. C'est notre psychisme. Ça ne se voit pas. Il y a des gens qui obéissent parfaitement. Ils sont arrivés à avoir une maîtrise d'eux-mêmes suffisante. Vous leur demandez quelque chose, ils disent « Oui, mon père. » Puis sortent. On voit bien que c'est pas commode à encaisser, mais il l'encaisse quand même. Et puis intérieurement, il y a une lutte. Cet imbécile, il me demande toujours la même chose au mauvais moment. Ah vraiment, quel manque de psychologie, ce prieur, effrayant. S'il est un peu plus intelligent, il va lui faire un petit peu attention. Puis c'est toujours moi. Toujours sur moi que ça dégringole. Les autres, ils disent non. Mais je sais pas pourquoi, tout le temps. Vous voyez la lutte derrière, on obéit. Ah oui, on est vertueux, on obéit. Extérieurement, on continuera la vie commune. Rien du tout, rien ne se verra. Mais intérieurement, la lutte. La lutte, c'est tout notre psychisme. C'est l'imaginaire lié aux passions. C'est ça que j'appelle le fort intermédiaire. Ce n'est ni le fort externe, ni le fort interne. C'est tout notre psychisme. Alors, ça dépend énormément des cas, vous comprenez, parce qu'à ce moment-là, il y a Il y a du passé qui revient avec une violence extraordinaire. La mémoire fait partie de notre psychisme. Il y avait des crevasses. Qu'on n'avait jamais dit, qu'on avait complètement oublié, puis subitement ça se rouvre, on ne sait pas pourquoi. Alors c'est tout le passé qui est plus ou moins chargé, qui se réactue subitement dans la mémoire, dans l'imaginaire. Et là on peut, ça peut aller jusqu'à une espèce d'inhibition. On continue. Oui, mais on n'est pas là du tout. On va au cœur, on continue. Alors, on a son livre. On est debout, puisqu'il faut être debout. Mais on est complètement absent. Complètement absent. Alors, si on est chantre à ce moment-là, pas commode. Des distractions. Formidable. Parce qu'on est tout à fait ailleurs. Quand on n'est pas chantre, on se laisse porter, puis on se tait. C'est visible qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut continuer un jour, deux jours, trois jours. Ça dépend si le lac est profond. Si le lac est profond, ça peut durer trois jours, quatre jours, une semaine. Ça peut durer. Si le lac n'est pas très profond, ça ne dure pas très longtemps. Mais la profondeur du lac, vous savez, c'est pas commode à découvrir ça. C'est l'affectivité passionnelle et l'imaginaire. C'est les instincts, l'appétit naturel. C'est tas de choses qui sont très brouillées. Donc ça, c'est le fort intermédiaire. Vous voyez que l'éducation, je ne dis pas la direction, l'éducation, acquérir des mœurs religieuses, implique nécessairement que ce fort intermédiaire soit purifié. Parce que c'est un terrain de paludisme. Et on est très secoué quelquefois. Donc, il faut que ce terrain-là soit purifié. Alors vous voyez, ce fort intermédiaire, où est l'autorité ? ce fort intermédiaire. C'est ce qu'on appellera l'ouverture du cœur. Alors, faisons attention. Je crois que ce terrain intermédiaire, passé ou présent, et ordinairement, le terrain passé, c'est quand il se réactue actuellement, qu'il faut le dire. Alors, c'est l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur peut se faire au prieur, peut se faire au confesseur, peut se faire à son directeur spirituel. Pas aux trois successives, parce qu'il y a des répétitions, mais à l'un d'entre eux. C'est de l'ordre de l'éducation. Mais ce n'est pas la direction spirituelle, c'est autre chose. La direction spirituelle, vous allez dire, s'enracine dans tout ça. Oui, c'est vrai, mais elle n'est pas dépendante de ça. Elle n'est pas déterminée par ça. Elle est dépendante. Elle est conditionnée par ça. Conditionnée. C'est le prologue de Saint Jean qui nous montre que la grâce fait de nous des enfants de Dieu. Or, c'est l'enfant de Dieu qui regarde la direction spirituelle. C'est l'enfant de Dieu. C'est le développement de la grâce, l'enfant de Dieu, qui est directement sous la dépendance de l'Esprit Saint. Or, la grâce, elle ne vient pas des instincts de l'homme. Elle ne dépend pas de la volonté de l'homme. Elle vient de Dieu. Mais évidemment, on est conditionné par tout cela. C'est pour ça que dans certains cas, ce sera nécessaire l'ouverture du cœur pour que la direction spirituelle puisse aller plus vite, puisse mieux porter. Mais je crois qu'il faut toujours distinguer les deux, parce que dans l'ordre de l'ouverture du cœur par rapport à tout ce psychisme, par rapport à toutes ces tentations, c'est le domaine des tentations. Les tentations sont beaucoup plus du côté imaginaire que du côté réel pour des gens qui essaient d'être vertueux. Ben, nous sommes tous des gens qui essaient d'être vertueux. Ils sont pas vertueux, mais ils essaient d'être vertueux. Les tentations sont beaucoup plus du côté imaginatif que du côté réel. Prenez du côté réel, on est quand même pas mal préservé. Pas de télévision, pas de spectacle le soir, pas de vin, trop. Une eau fraîche, n'est-ce pas ? Pas. Bon, et ainsi de suite. Vous voyez, on est préservé. Heureusement, tu vois, c'est comme ça, c'est notre tête. C'est la vie religieuse. Mais quelquefois, la vie religieuse fait qu'à ce moment-là, il y a des exaspérations par rapport au passé. Avant, on avait une vie tout autre. On sortait tous les soirs. Puis brutalement au noviciat, brutalement, on est dans une serre chaude, qui quelquefois est glaciale, hein. Mais c'est quand même une serre chaude, mais glaciale, plus aucune affection, du moins on a l'impression que c'est comme ça, c'est pas vrai, mais c'est comme ça, on a l'impression que ça, dans notre fort interne, mais c'est où tout le monde nous regarde de travers, comme si tout le monde s'intéressait à nous. Ah oui, il m'a regardé, il est passé devant moi, sans le sourire. Bah, depuis comme ça, c'est que ça dure comme ça. Donc il y a quelque chose, il y a une dent contre moi. Pourquoi ? Vous voyez ? Alors, il y a des tas de choses comme ça qui s'accumulent dans la vie commune. Alors, qui fait un terrain volcanique. C'est le terrain volcanique, vous voyez, ce fort interne. Ce fort interne, entre le fort externe et le fort interne. Ce terrain psychique, c'est le terrain volcanique. Très différent pour chacun d'entre nous. Parce que ça dépend de ce qu'on a vécu avant. Si on a acquis des vertus, donc le terrain a été cultivé, il est beaucoup moins un terrain paludien. Il n'y a plus de fièvre paludienne. Le terrain a été cultivé. L'éducation chrétienne, normalement antique, et permet à l'imaginaire d'être moins farouche. Mais si on n'a pas reçu du tout une éducation chrétienne, on n'en peut rien. On a été converti à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Avant, rien du tout. Alors l'imaginaire a été dans une liberté extraordinaire pendant un certain temps. Et ça a mis du temps. Parce que le démon, c'est le prince de l'imaginaire. Prince de ce monde. Et ce monde, c'est l'imaginaire. Le démon agit plus sur l'imaginaire que sur le physique. Ça, c'est... Il agit terriblement sur l'imaginaire, en se cachant. Et sur tous les aspects multiples. Donc, c'est le terrain des luttes, ce fort intermédiaire. Et c'est pour ça que c'est important, surtout pour une novice et un novice. Sainte Thérèse, la grande Sainte Thérèse, recommande l'ouverture du cœur aux novices. C'est nécessaire. Et le noviciat peut se prolonger jusqu'au moment de la profession perpétuelle. Et quelquefois, le noviciat se prolonge encore plus. Ça, on doit s'en apercevoir progressivement soi-même. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de consacrer son imaginaire à la Vierge Marie pour qu'elle règne et elle fasse que le terrain imaginatif qui est en nous, petit à petit, s'apaise. Donc, comprenons que l'ouverture du cœur, c'est ce domaine intermédiaire, en premier lieu, le domaine des tentations, le domaine de tout ce qu'on a vécu avant, le domaine des réactions que nous avons face à telle ou telle, face à telle ou telle autorité. On ne peut pas encaisser ça. Alors, c'est le domaine intermédiaire. C'est pas nécessairement un domaine pécamineux. C'est le domaine des luttes. C'est pas nécessairement pécamineux. Mais ça nous alourdit. Ça nous empêche d'avoir des ailes. Ça nous remet dans des ornières. Et on retombe dans ces ornières parce qu'on sait psychologiquement. C'est tout le domaine psychologique, ça. Oui. Alors, c'est là où il faut être suffisamment prudent. Pour savoir que quand on est novice, c'est bon et c'est recommandé. Cette ouverture du cœur, c'est bon et c'est recommandé. Si on n'a pas fait au noviciat pour telle ou telle raison, ce qui est très possible, Dieu le demandera quelquefois après. Il peut y avoir des périodes dans notre vie où c'est nécessaire, parce qu'on sent très bien que les égouts remontent à la surface. C'est pas trop pourquoi. Mais il y a des tas de choses qui remontent à la surface. Et on a besoin de liquider tout ça. Et on ne peut pas le laisser sans le liquider. Parce qu'il y a peut-être une telle ou telle petite chose qui ont arrêté. Vous voyez, tout ce fort intermédiaire fait que c'est à l'égard de quelqu'un qui a quand même autorité sur nous. Prieur ou la prieure. Puisque la prieure ne peut pas confesser. Que la prieure puisse diriger spirituellement, c'est possible. Faut pas dire que la direction spirituelle est réservée aux prêtres. C'est faux dire ça. La direction spirituelle n'est pas réservée aux prêtres. Dans l'église, c'est très net. Le starets, puisque ça s'appelle comme ça, en Orient, c'est pas tout. Dans un carmel, la direction spirituelle est réservée à la prieure. Dans une abbaye, c'est réservé à l'abbesse. Et dans une abbaye d'homme à l'abbé, notamment l'abbé prieur, actuellement, la plupart du temps. Mais au début, il ne l'était pas nécessairement. On peut discuter de savoir si Saint Bruno était prêtre ou pas prêtre. Ça se discute. Et il avait sûrement une direction spirituelle vis-à-vis de ses fils. Il y avait une paternité spirituelle. Donc, vous voyez, la confession relève du sacerdoce. La direction spirituelle, normalement, je dis normalement, relève d'un théologien et des théologiens Il y a des femmes qui sont meilleures théologiennes que certains hommes. Ça, c'est sûr. Et la théologie nous arme pour cela et nous aide pour cela. C'est une des raisons pour laquelle, du reste, la théologie est bonne. Parce qu'elle nous aide, nous-mêmes, à mieux discerner ce qui est imaginatif et ce qui est l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais on aura toujours besoin de la rectification d'un autre. Donc, normalement, ça relève du sacerdoce. Mais, pour des religieuses, c'est quelquefois, au noviciat, c'est très souvent la maîtresse novice. Pas nécessairement, hein. La maîtresse de vie n'aurait pas le droit de dire, eh bien, la direction spirituelle, c'est moi seul ici. Hein. On n'a pas le droit de dire ça. Jamais. Comme le père maître n'a pas le droit de dire, le noviciat, il a le droit de dire, l'ouverture du cœur, c'est moi. Ça, oui. Ça. C'est pour ça que quelquefois, ça ne peut pas se faire au noviciat, parce que si on ne s'entend pas avec le père maître, c'est très difficile. Mais la direction spirituelle relève du Saint-Esprit. Donc on est pauvre, on n'a aucun droit. On n'a jamais un droit sur la direction spirituelle. Tandis qu'au contraire, l'ouverture du cœur, quand on la fait, on demande à quelqu'un de nous éclairer et de nous éduquer. C'est du domaine de l'éducation, d'une rééducation, d'essayer de déblayer le terrain pour qu'il soit plus net. Alors, cela relève de quelqu'un qui a un peu de théologie. Parce que pour être éducateur, il faut être un théologien. Un peu de philosophie. Du reste, pour être un bon théologien, il faut être un philosophe. Quelqu'un qui nous comprend. Il y a des affinités. Comment voulez-vous ouvrir votre cœur à quelqu'un qui n'a aucune affinité? C'est impossible. C'est absolument impossible. C'est pas la peine d'essayer, ça aboutira à rien du tout. Donc il y a des conditions préalables d'affinité. Autrement, c'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'avec tous ceux avec qui j'ai des affinités, je vais avoir l'ouverture du cœur. Non, 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 non. L'ouverture du cœur est momentanée. Elle n'est pas toute la vie. La direction spirituelle dure toute notre vie. Mais la direction spirituelle, quand les gros problèmes se sont évacués du passé, ça va beaucoup plus vite. Parce que l'ouverture du cœur, c'est le point de vue psychologique qu'on doit déblayer. C'est ça qu'il ne faut pas que l'ouverture du cœur se confonde avec la direction spirituelle. Il peut se faire que ce soit la même personne qui est notre directeur spirituel avec qui nous avons l'ouverture du cœur. C'est très bien. C'est même très encourageant sur la même personne. Mais il faut que lui soit suffisamment théologien pour faire le discernement. En disant à un moment donné, je crois qu'il vaut mieux que l'ouverture du cœur se simplifie. Parce que vous risquez de rester trop longtemps dans le psychologique. Il y a un danger. Il faut bien comprendre qu'il y a un danger. Il y a un danger de non-ouverture du cœur. Il y a un danger d'éparpillement d'ouverture du cœur. Attitude trop réflexive. Or, le directeur spirituel devra être là pour dire, écoutez, je crois que pour vous, c'est mieux maintenant. Vous allez tomber dans un petit peu un scrupule ou une attitude trop réflexive sur vous. Parce que l'ouverture du cœur peut mener très bien ce danger. Comme la non-ouverture du cœur fait qu'on ne veut pas regarder ce terrain qui est en nous psychologique, on ne veut pas le regarder. Surtout pas. Et on s'enlise. Et on reste enlisé. Donc vous voyez, il y a une question de prudence, c'est pas du tout un absolu. L'absolu, c'est du côté de la direction spirituelle. L'Esprit Saint est directeur, est rector. Et c'est l'Esprit Saint qui met sur notre route l'instrument de Dieu, qui pour nous est notre père spirituel, paternité spirituelle. La paternité spirituelle n'est pas du côté de l'ouverture du cœur. La paternité spirituelle est du côté de la direction spirituelle. Les vertus théologales. C'est normal, c'est la vie divine. La paternité spirituelle du côté de la vie divine. Tandis que de l'autre côté, c'est tout un aspect qui t'a purifié, qui est nécessaire, il faut le purifier. C'est nécessaire, il faut l'irriguer. Ça n'a jamais été irrigué. On n'a pas eu le temps, bien, parce que personne. C'est pour ça que dans la vie religieuse, c'est nécessaire une période où normalement le noviciat. Normalement. puis ça dure un petit peu après aussi. Parce qu'il faut bien. Puis il y a des choses qui ne se sont pas révélées aux noviciats qui se révèlent après. Ça peut très bien arriver. Aux noviciats, Dieu nous a tellement enveloppés de tendresse et d'amour que tout le passé disparaissait. Puis subitement après, dans la lutte, le passé revient avec une force invraisemblable. Alors à ce moment-là, pour voir un tout petit peu clair, on a besoin de ça. Voyez que c'est quelque chose d'important, cela. Il y a encore combien de temps?
5 minutes.
Vous voyez que si on respecte ces domaines, il ne peut jamais y avoir de conflit. Mais évidemment, il y a toujours des possibilités de conflit parce qu'on ne respecte pas ces domaines à cause de l'imaginaire. Et alors c'est là où on a besoin justement de purifier notre imaginaire. Et purifier l'imaginaire, c'est pas commode du tout. Surtout quand on est très passionné. Alors il y a une purification, mais vous voyez, il n'y a pas de danger d'empiètement. Parce que le prêtre, par rapport à la vie religieuse, je dirais le prêtre par rapport à des religieux, il est confesseur. Il doit rester confesseur. Encore, regardez. Vous êtes sûr? Très bien. Pas de conflit. Voyez, le confesseur pour la vie religieuse, il est confesseur. Quand il connaît un peu une communauté, nécessairement, il y a des sœurs qui disent, mon père, est-ce que vous pourriez me diriger au point de vue spirituel? Et puis il arrive aussi, alors je dis, mon père, est-ce que je pourrais ouvrir un peu mon cœur sur toutes les luttes possibles? J'ai une prière impossible, ne comprends rien du tout. Alors je suis très seul, très très seul, j'ai absolument besoin, puis j'ai pas confiance, c'est trop difficile, on est bon. Alors à ce moment-là, vous devez, dans la mesure où vous avez le temps, parce que ça prend plus de temps, voyez, la confession c'est assez rapide, parce que c'est le Saint-Esprit, vous êtes instrument de Dieu. La direction spirituelle, la vraie direction spirituelle, c'est assez rapide, il suffit d'invoquer le Saint-Esprit. Mais le point de vue de l'ouverture du cœur, c'est toujours long. Ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est dans l'ordre psychologique. Allez, dans ce chemin, entre mes étangs. Il faut beaucoup de patience pour écouter, pour essayer. Parce que vous pouvez voir clair, mais celui, l'autre, ne voit pas clair du tout. Et si vous voulez agir trop vite, il s'enfonce. Parce qu'il aura peur de l'intimidité, des tas de choses comme ça. Père, n'allez pas trop vite, vous savez, je suis bon, très bien, très bien. On va aller le plus lentement possible, bon, très bien. Alors, on récite son chapelet pendant ce temps-là, pour avoir toute la patience qu'il faut. Avant, quand il y avait des confessionnaux, c'était très bien, tu vois. Maintenant qu'il y en a plus, c'est plus difficile. Mais on doit forcément faire attention d'être toute la patience qu'il faut, parce qu'il faut du temps. Et on n'est pas seul, on n'est jamais seul, il y a toujours d'autres derrière qui attendent. Mais c'est possible, on le demande. Vous voyez, mais c'est pas le prêtre qui doit demander. C'est pas le prêtre qui prend l'initiative. C'est très net. Pour les religieuses, on nomme un confesseur. Et on sait qu'on est confesseur. Et on ne doit pas attribuer un rôle plus tant que on ne vous l'a pas demandé. Or, on n'impose jamais un directeur à une communauté. Non, un confesseur. Heureusement, du reste. Mais il est normal qu'une religieuse demande « Est-ce que vous ne pouvez pas me diriger? Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Est-ce que vous m'avez insulté ?» On comprend très bien à ce moment-là. Mais vous voyez, c'est très important. Parce que vous aurez tous à confesser des religieuses. Vous êtes d'autant plus vigilants. Mais c'est la même chose pour les gens mariés. Parce que ça forme une petite communauté. Et dans les gens mariés, il y a une autorité extrinsèque. Il y a du fort externe. respecter l'autorité de forces externes. Et même quand vous êtes directeur et que vous devez essayer de voir clair dans l'ouverture du cœur, respectez tout le temps le fort externe et l'autorité de fort externe. Tout le temps. Et si vous donnez un conseil, par exemple, disant « Je crois qu'il serait bon pour vous de jeûner un peu, vous en avez besoin, ça ferait du bien. » Vous devez dire « Demandez ça à votre prieur. » Vous ne pouvez pas donner un ordre par rapport au fort externe. Le lever de nuit. Est-ce que ça dépend du fort interne ou du fort externe? Le lever de nuit. Je me sens très poussé par le Saint-Esprit. Bon, je suis réveillé automatiquement à 2 heures. Automatiquement, le Saint-Esprit me réveille à 2 heures. Ou à 2h30. J'ai envie de prier. Le Saint-Esprit me pousse à ça. Alors, est-ce que vous avez le droit, en dehors du prieur, de dire oui, faites-le. Je crois que vous avez le droit au début. Si ça dure un peu, il faut prévenir le prieur ou la prieure à cause de la santé. Au début, je crois, si vous restez en cellule, si vous allez à la chapelle, fort externe, vous allez circuler la nuit. Du bruit, forcément, ça ne peut pas être autrement. Alors prévenez le prieur. Demandez-lui la permission. C'est normal. Parce que l'oiseau quitte sa cage. Tandis que je crois que vous avez le droit, sans demander de fort externe, de vous lever la nuit et de prier dans votre cellule. Ça reste du fort interne. Jeûner, ben là, ça se voit, la salle publique. Alors demandez à votre prière. Oh, une fois en passant, à vendredi, vous ne prenez pas de pommes. Oh, à vendredi soir, vous ne prenez que du pain et de l'eau. Faites discrètement, un peu de soupe, parce que c'est chaud, qui fait froid, là. Faites discrètement votre soupe, ça dure très très longtemps, les plats passent devant, tout le monde a compris, mais vous continuez de maintenir le stratagème très très bien. C'est pieusement, le voisin baisse les yeux ici. Et pas un petit papier en disant, tu sais, j'ai compris, tu meurs. Vous voyez, ça regarde le fort externe, ça. Donc il faut que le prière soit. Nous n'avons plus de droit sur notre santé dans la vie religieuse. Nous n'avons offert notre santé à Dieu. Donc on ne peut plus faire des pénitences extraordinaires sans avoir l'avis du prieur. Oui, je crois que ça, ça fait partie. Il y a des requins comme ça. Alors, surtout quand il s'agit de religieuses, pour le confesseur, il faut qu'il soit d'autant plus discret. Surtout pour les femmes, où elles vivent plus les unes sur les autres. Pour les hommes, bon, c'est plus facile d'une certaine manière. Mais il faut être attentif à ça, il faut le savoir. Et d'une façon générale, le confesseur, pour les religieuses, doit être très discret. Moi, je crois que la discrétion, et pour les femmes mariées, très discret. La discrétion, parce qu'on est instrument de Dieu dans la confession, et on pardonne. Et dans la direction spirituelle, on est aussi instrument de Dieu. Mais on ne doit jamais refuser, si on le peut, d'aider pour ce fort intermédiaire. On ne doit jamais refuser. Et donc on doit être attentif à ça. Que dans ce fort intermédiaire, alors là, c'est beaucoup plus délicat. Et dans certains points, on dira, écoutez, vous pouvez peut-être en parler à votre mère prieur, votre mère supérieure, vous peut-être mieux, à votre maîtresse de la vie, si vous en parlez, c'est mieux. Oh, ça me gêne beaucoup, ça me gêne beaucoup. Si ça vous gêne de trop, très peu. On ne peut pas forcer dans ce domaine-là. Dès que ça touche le fort externe, oui, vous devez vous en excuser. Mais je ne peux pas forcer une novice d'avoir l'ouverture du cœur à sa maîtresse novice. On peut pas. On peut conseiller, mais on peut pas forcer. Parce que vous mettez alors dans des situations qui sont très très délicates. C'est pour ça que c'est bon de distinguer les trois. Vous pouvez dire, est-ce que vous préférez que j'en parle? Elle dit, oh oui, oh, je comprends, très bien, on en parle. Mais il y a un secret qui est très très important à garder. Le secret de confession, c'est bien évident. Hein, et l'Église le demande avec une force, et ça, il faut être très attentif à ça. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, où plus personne ne sait tenir discret. Ah, vous êtes farouche là-dessus. Le secret de la confession, vous êtes farouche. Jamais, jamais dire des choses qui puissent, tant soit peu, avoir l'impression qu'on livre des secrets de confession. Il n'y a rien qui blesse plus, et il n'y a rien qui fait plus de mal. Donc ça, il faut être farouche là-dessus. Alors quand vous avez confessé quelqu'un avant de prêcher, ne vous servez pas de ce que vous avez entendu, même si vous le mettez d'une façon universelle. C'est vrai, on n'a aucune originalité en prêchant. Mais aucune originalité en pêchant. Aucune. C'est le bien commun de tout le monde. Alors vous dites, j'universalise. Oui, mais faites attention, la personne elle, qui a dit ça en confession, elle n'universalise pas. Elle. Donc elle est passée. Donc il ne faut pas. C'est de façon générale, quand on prêche pas pour une personne. On prêche pour tous. On est témoin pour tous. C'est le propre de la prédication ou de l'enseignement. Donc, un très grand souci de secret de la confession. Un très grand souci du secret de la direction. Parce que quand on vous dit des secrets, ce sont des secrets divins. On n'a pas le droit d'en parler. Au supérieur ou à la supérieure. On n'a pas le droit. Et si on doit en parler, on doit dire, écoutez, ça je crois que je dois le dire, est-ce que vous acceptez? Et si la personne dit non, on doit se tenir à ce qu'elle dit. Le secret est quelque chose de divin, c'est sacré le secret. Et c'est ça, c'est très très important. Je vous dis, il n'y a rien qui blesse plus que de sentir qu'on s'est confié à quelqu'un, à un prêtre, puis sentir que ce prêtre, même s'il n'a pas eu une mauvaise intention, c'est sûr, mais il a manqué de discrétion. Alors ça, il faut s'habituer. C'est pour ça que dans la vie religieuse, il faut s'habituer au silence, vous voyez. Le silence de la vie religieuse, c'est pour garder les secrets. Et un moine silencieux pourra garder bien mieux les secrets que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le silence. Alors du jour au lendemain, vous savez, dès qu'il deviendra prêtre, c'est pas à ce moment-là qu'il va acquérir du jour au lendemain la discrétion. Non. Ah, c'est ce qu'il faudrait. Donc il doit s'y préparer. Et ce qui est vrai du prêtre est vrai de la maîtresse novice ou de la prieure quand de fait on lui demande une direction spirituelle. La direction spirituelle dans le prolongement du fort interne, et le fort interne regarde Dieu. On est l'instrument du Saint-Esprit, donc ça ne nous appartient pas. Et on n'a pas le droit de s'en servir pour le fort externe, si on exerce autorité de fort externe. On n'a pas le droit de s'en servir. S'en servir, ce serait trahir. Et donc on n'a pas le droit. C'est pas toujours commode. Mais il faut justement que tout ça soit confié à l'Esprit Saint pour qu'on ne s'en serve pas. Mais c'est capital, ça. J'allais dire que c'est... Dans la charité fraternelle, ce sont des choses très très importantes qu'il faut se rappeler souvent. Parce que on se laisse aller, vous voyez, notre monde est un monde qui ne sait plus ce que sont les secrets. On ne sait plus. On arrache les secrets par la psychanalyse. Les journalistes croient qu'il n'y a plus de secrets, et ainsi de suite. Alors il faut qu'on lutte contre ça et qu'on ait une conscience très grande. Par rapport à l'ouverture du cœur, là aussi, évidemment, c'est moins secret. Mais ça fait rien. C'est en ouvre son cœur là-dessus. Alors, à ce moment-là, on demande normalement le secret. Et si celui à qui on a ouvert le cœur dit, écoutez, ça, ça me semble nécessaire que vous puissiez en parler à votre supérieur. Alors c'est là où on doit s'arranger dans une coopération, si l'autre accepte. Mais on fera toujours attention de dire ce qu'on nous a permis de dire et de ne pas dire plus. Oui. Alors, si dans ces domaines-là, vous avez des questions, notez-les maintenant et on pourra faire une autre fois un autre cours pour répondre aux questions posées. Alors ces questions posées, je crois qu'il serait bien de les déposer puisque c'est un problème plus vaste chez le père prieur. Si c'est très secret, personnel, vous le mettez sous enveloppe ou vous mettez un petit truc. Hein. Père prieur est discret, vous savez. Il a beaucoup de défauts, mais il est discret. C'est ça. Alors, ne craignez pas. Ne craignez pas. Mettez tout simplement personnel. Et puis vous adressez. Et si c'est quelque chose qui regarde, il n'y a pas d'importance, vous mettez tout simplement et vous lui donnez. Pour que le père prieur puisse me les donner. Et puis qu'on puisse essayer dans ce domaine. C'est bon. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et c'est utile d'en parler. Pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus précis, plus net.